Le 4 juillet 1962.
L'autre jour, bon, à propos de... Pamitra m'a dit, comme ça en passant, il m'a dit, mais la science moderne ne nous suivrait pas et ne nous croirait pas. Et la raison qu'il donne, c'est que il ne faut faire que des hypothèses indispensables et que nos hypothèses, ils prennent notre science pour des hypothèses parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Vos hypothèses ne sont pas indispensables. Je n'ai pas discuté avec Pamitra, je ne lui ai pas dit nous ne faisons pas d'hypothèses, le moins du monde. Nous simplement, we state our experiences. Ils sont libres de ne pas nous croire, de croire que nous sommes à moitié fous, des hallucinés. Ça c'est leur affaire, ça les regarde. Mais nous ne faisons pas d'hypothèses. Nous parlons de choses que nous savons, dont nous avons l'expérience. Et après ça, j'ai eu pendant quelques heures la vision de cet état d'esprit. Et j'ai trouvé que il n'y avait pas besoin du tout de faire, parce que Pamitra parlait des hypothèses des différents états d'être. Et c'est justement ça que je t'ai dit, que j'avais dépassé, n'est-ce pas? Je n'ai plus besoin de dimensions intérieures. Et j'ai vu, n'est-ce pas? Je voyais cet état d'esprit matérialiste. Je disais, ils sont obligés, justement par leurs expériences, d'admettre l'unité, en tout cas l'unité de substance. Et d'admettre l'unité suffit pour avoir la clé de tout le problème. Ça m'a de nouveau fait voir que peut-être au fond que cette dernière expérience était pour me libérer de toutes les connaissances passées et que la vérité peut être vécue sans avoir besoin de tout ça. Je n'ai pas besoin de toute la terminologie, ni de Shiobindo, ni naturellement des autres. Mais je n'ai pas besoin de toutes ces classifications, je n'ai pas besoin de toutes ces expériences. J'ai besoin d'une expérience, celle que j'ai, et que j'ai en toutes choses et en toutes circonstances. L'expérience de l'unité éternelle, infinie, absolue, qui se manifeste dans le fini, le relatif et le temporel. Et que c'est ce processus de changement à la recherche duquel je suis, et que de plus en plus qu'il ne me paraît pas être un problème, après avoir paru être le dernier problème, ça ne me paraît pas un problème, parce que, mais ça, alors là, ça ne peut pas se dire. Il lui plaît d'être ainsi. Il est ainsi. Et simplement, le secret, c'est d'être dans le « il lui plaît ». De ne pas être seulement ce qui est objectivé, d'être aussi dans ce qui est objectif. C'est tout. Avec ça, je n'ai pas besoin d'aucune autre théorie. Et si c'est poussé à l'extrême, si l'identification est parfaite, c'est nécessairement la toute-puissance. Au fond, ce n'est que la toute-puissance qui pourrait convertir le monde, convaincre le monde. Le monde n'est pas prêt pour l'expérience de l'amour suprême. L'amour suprême supprime tout problème. Même le problème de la création. Il n'y a plus de problème. Ça, je le sais avec ça. Mais le monde n'est pas prêt. Il lui faudra peut-être quelques milliers d'années pour être prêt. Mais le monde commence à être prêt pour la manifestation du pouvoir suprême. Ce qui me semble indiquer que c'est ça qui se manifestera d'abord. Et le pouvoir suprême viendrait d'une identification constante. C'est cette constante, cette... N'est-ce pas ? On est, et puis on est plus. On est, et puis on est plus. C'est ça qui retarde indéfiniment. C'est-à-dire qu'on fait justement ce que l'on dit aux gens de ne pas faire. On a un pied ici, puis un pied là. Ça va pas. Il doit y avoir des lois qui doivent être l'expression d'une sagesse qui nous dépasse, parce que ça a l'air de suivre une sorte de courbe que je ne comprends pas, parce que je suis dans la courbe. C'est seulement quand c'est fini qu'on comprend la courbe, quand on est au bout. Je suis en plein milieu, peut-être au tout commencement. On pourrait dire des choses assez jolies, mais qui n'expliquent rien. Comme par exemple ceci, cette impression qu'il est nécessaire de mourir à la mort pour naître à l'immortalité. Ça ne veut rien dire. Mais ça correspond à quelque chose. Mourir à la mort voudrait dire devenir incapable de mourir parce que la mort n'a plus de réalité. Ça, c'est quelque chose qui commence à... Je ne peux pas dire cristalliser, c'est beaucoup trop dur. comme un souffle léger qui se concrétise. De l'unicelle qui est parti. C'était le résultat d'un accident. Son cœur était en mauvais état et ça le préoccupait. Mais enfin, il est tombé, probablement il s'est évanoui, il est tombé, évanoui, il s'est cassé la tête. Et il a eu une hémorragie cérébrale qui l'a rendu inconscient. Tout ça, c'est la science moderne. Au moment de l'accident, il est venu me trouver. Pas dans une forme précise, mais un état de conscience que j'ai reconnu immédiatement. Et il est resté là, dans une confiance totale et une paix béatifique, sans bouger dans aucun état d'être, n'est-ce pas, comme ça, absolument, une confiance totale. Ce qui arrivera, arrivera, ce qui est, n'est-ce pas, sans discussion, sans même besoin de savoir. Et puis une paix comme ça, confortable, n'est-ce pas. The great ease. Ils ont essayé, lutté, fait des opérations, etc. Ah, oui. Rien ne veut pas. Et puis un jour, ils ont déclaré qu'il était mort. Entre parenthèses, il paraît que médicalement, quand le corps est mort, pour une fraction de minutes, le cœur continue des petites pulsations. Et puis ça s'arrête. Pour lui, ces petites pulsations qui ne suffisent pas à envoyer le sang, mais ces petites pulsations vont continuer pour une demi-heure. C'est-à-dire que c'est le genre de pulsation qu'on a quand on est dans un état de transe. Il semble être d'une ignorance crasse, tous, mais enfin, ça se dit. Mais ils ont dit, oh! Même les docteurs, là, ont dit, oh, c'est un grand yogi, parce que c'est seulement les yogis à qui ça arrive. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Je n'en sais rien. Moi, je sais que ces pulsations-là, qui ne suffisent pas à envoyer le sang dans le corps, ce qui fait que le corps est dans un état cataleptique, suffit à garder la vie. Et que c'est comme ça que tous les yogis peuvent rester des mois, n'est-ce pas? Mais, enfin, je ne sais pas quel genre de docteur, c'est probablement très moderne, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Mais enfin, pour lui, ça a duré une demi-heure, à leur connaissance. Généralement, c'est l'affaire de quelques secondes, n'est-ce pas? Bon. Et alors, leur remarque. Pendant tout ce temps, il était là, immuable. Tout d'un coup, j'ai senti une sorte de tremblement, j'ai regardé, il n'était plus là. J'étais occupée, je n'ai pas regardé l'heure. Mais c'était dans l'après-midi, c'est tout ce que je sais. Puis alors on est venu me dire qu'on avait décidé de le brûler, et qu'on l'avait brûlé à ce moment-là. Cet homme, il avait été extériorisé violemment par l'accident. Il devait être à ce moment-là en train de penser à moi, avec, n'est-ce pas, cet état de confiance. Et il est venu, il n'a pas bougé. Il n'a jamais su ce qui est arrivé à son corps. Et il n'a pas su qu'il était mort. Et si, tout d'un coup, je me suis dit, cette habitude de brûler les gens, c'est une chose d'une brutalité incroyable. On leur met le feu dans la bouche pour commencer. Il ne savait pas qu'il était mort et c'est comme ça qu'il a appris qu'il était mort par la réaction de la forme dans le corps. Parce que la forme dans le corps, même quand le corps est tout à fait en mauvais état, ça prend au moins 7 jours pour sortir. C'est-à-dire la vie de la forme. La vie de la forme prend 7 jours. Pour quelqu'un qui a fait des exercices yogiques, cette vie est consciente. Alors, vous brûlez les gens quelques heures après que les docteurs ont déclaré qu'ils sont morts, et la vie de la forme est tout à fait vivante, et chez les gens qui ont fait du yoga, consciente. Voilà. Ça m'a... Tandis que... dans l'état où il était, ça ne faisait aucune différence pour lui. Et c'était ça qui était intéressant. Il était dans son même état, béatifique, confiant, paisible, et tout doucement, je l'aurais probablement mené ou au monde psychique ou ailleurs, suivant l'indication reçue de ce qu'il devait faire. Il n'aurait jamais su qu'il était mort. Ça m'a ouvert une porte. Et c'est parce qu'on l'a brûlé que tout d'un coup, il comprend. Il a été mis violemment en contact avec le... avec... ça doit être la vie d'un fond qui, ou se précipiter, projeter hors du corps de la façon la plus violente, n'est-ce pas? Elle a dû se précipiter sur lui. Alors, naturellement. Tout d'un coup, je me suis dit, mais il continuait à être, à vivre, à avoir l'expérience absolument indépendante de son corps, n'ayant aucun besoin du corps pour avoir son expérience. Et avec ma protection et ma connaissance, j'aurais pu le mettre dans un lieu de repos, ou alors le mettre en rapport avec un autre corps si c'était nécessaire. Maintenant, naturellement, ça a fait un désordre, il faut attendre que tout ça soit calmé. Mais on peut mourir sans savoir qu'on est mort. Et garder sa pleine conscience, il est tout à fait conscient, béatifié. Je trouve ça important, une expérience importante. Je n'ai pas dit ce qui était arrivé, j'ai dit seulement qu'il était venu à mon... Je n'ai dit à personne qui est arrivé au moment de... où on l'a brûlé, parce que ces gens seraient tout à fait misérables et malheureux, et je ne veux pas leur dire. Alors il ne faut pas que je raconte ça à
personne. Oh non.
Il ne faut pas comme ça. Je ne l'ai pas dit parce que s'ils savent ça, ils vont être désespérés. Non pas que c'est irrémédiable, mais enfin c'est une expérience qui n'est pas agréable. Alors il ne faut pas comme ça.
Non.
Mais ça a été comme quelque chose qui m'a été... N'est-ce pas, qui est venu à moi pour me mettre en contact avec quelque chose. Dans la conscience ordinaire, ce qui gêne beaucoup pour l'expérience, c'est que nous sommes beaucoup trop attachés à la forme telle que nous la voyons et qui nous paraît être une réalité définitive de l'être. Moi, j'essaie de faire comprendre ça aux gens par une démonstration. Dans le sens que c'est très rare que je parie aux gens dans une forme même similaire à celle que j'ai eue physiquement. C'est toujours suivant ce avec quoi ils sont en rapport, ce qui est le plus intime avec eux, toutes sortes de choses. Et j'essaie de leur faire comprendre que ça, c'est aussi vraiment ma forme que ça. Et à dire vrai, c'est le plus souvent beaucoup plus vraiment ma forme. Quant à la forme vraie, la vraie forme, il faut être capable d'entrer en relation avec le suprême pour pouvoir supporter de la voir. Et alors, quand on dit que je veux vous voir, c'est l'identification. Mais toute cette cascade de formes sont toutes aussi vraies, et la plupart d'entre elles plus vraies que n'a jamais été ça. Qui était toujours lamentablement approximatif. Pour ma conscience, une caricature, pas même une caricature, aucune ressemblance. Ça avait ses qualités. Excuse-moi, je parle toujours au passé, ça ne fait rien, faut pas faire attention. C'est spontané. Ça avait ses qualités. Et c'est pour ça que ça a été fait comme ça et choisi. Au point de vue utilité, c'était très nécessaire. Mais au point de vue manifestation, mais peut-être que si ça avait été vraiment expressif, si ça avait été quelque chose de tout à fait parlant, il y aurait eu plus d'hésitation à à laisser aller. Il n'y a jamais eu très grand attachement pour cette forme. Il y avait d'attachement, même je parle, même en soi-disant pleine ignorance, il y avait d'attachement pour la conscience. Ça, il y avait quelque chose qui tenait très fort à cette conscience, qui ne voulait pas qu'elle soit détruite, qui disait c'est une chose précieuse. D'accord. Même pas un très bon instrument, même pas. Seulement, modeste, plastique, ne s'affirmant pas, mais très se modelant sur toutes les nécessités. Capable de se modeler sur tous les points de vue et de réaliser tout idéal qu'il concevait comme méritant d'être réalisé. Ça, cette souplesse-là, c'était sa vertu. Et une si grande modestie dans le sens de n'ayant jamais l'idée de vouloir s'imposer sur rien ni personne. Tout à fait conscient de son incapacité, mais capable de tout faire et de tout réaliser. Eh bien, cette structure-là, c'est celle-là qui a été faite consciemment au moment de la naissance, parce que c'était ça qui était nécessaire. Et rien n'est trop grand. Rien n'est écrasant, parce qu'il n'y a pas la résistance d'une petite personnalité qui se sent toute petite. Ça n'a aucune importance. La conscience. La conscience vaste comme l'univers est plus. Et avec la conscience, la capacité de s'adapter. S'adapter, se mouler sur toutes les nécessités. Et encore maintenant, le seul sentiment que j'ai de cette forme, c'est qu'elle est trop fixe. C'est pas... Les très grandes révélations intérieures sont ces très grands mouvements de conscience créatrice, hein, c'est tout le temps hampered par... Oh, ça essaye de son mieux, mais c'est encore régi par des lois d'une fixité. Lamentable. Combien de temps ça prendra pour surmonter ça? Il ne faut pas être pressé.
Mais quel... Il est tard.
Quoi?
Non, je voulais... Quel genre de conclusion on peut tirer de l'expérience de Nalini Sen? Pratiquement, Ça vous l'apporte à quoi?
Ce n'est pas des cas, non. Il y a des cas. Là, maintenant, je l'ai laissé décider parce que je ne décide pas de ses affaires. Mais j'avais suggéré qu'on le garde jusqu'au lendemain. Et pendant la nuit, j'aurais fait quelque chose. N'est-ce pas? Ils étaient pressés, ils sont toujours pressés. Je ne dis même pas de ne pas brûler, parce qu'il y a au moins 99 cas sur 100 où c'est la meilleure chose à faire. Il n'y a qu'une chose, c'est que les hommes deviennent sages, ils ne sont pas sages. Ils acceptent une loi, un principe, et puis... Il faut qu'ils le suivent aveuglément, parce qu'ils n'ont pas de salut. Mais, n'est-ce pas, si j'avais pris la responsabilité, j'ai pas pris la responsabilité volontairement pour d'autres raisons, mais si j'avais pris la responsabilité, j'aurais dit gardez-le jusqu'à demain matin. Et dans la nuit, j'aurais fait quelque chose. Mais ça, c'est un cas. Sur des millions, n'est-ce pas? On ne peut pas ériger ça en principe.
Non, ce que je voulais dire, c'est quelle conclusion pour toi, ton expérience?
Mon expérience? Oui. Mais c'est qu'on peut mourir sans savoir qu'on est mort. On peut mourir ce que les hommes appellent mourir sans savoir qu'on est mort. Par conséquent, ça n'a pas une importance capitale. Les hommes disent, n'est-ce pas? Il est inconscient, et alors il considère qu'il est devenu inconscient parce que rien ne se manifestait dans le corps. Et le corps était réduit à un minimum de conscience. Il y en avait une puisque ça a réagi. Mais tout à fait un minimum, n'est-ce pas? Quelque chose sans grand pouvoir de réaction, parce que ce n'était pas un yogi parfait. C'était seulement un apprenti yogi. Il n'avait, par exemple, un homme qui aurait fait un hatha yoga, ça aurait été tout à fait différent pour lui. Ça aurait été beaucoup plus sérieux. Mais, je veux dire qu'il y avait une omniscène là, à côté de moi, tout à fait conscient, qui pouvait passer à un autre mode de manifestation, sans même passer par les affres de la mort. Ce n'est pas du tout indispensable. C'était ça mon expérience, que je trouve très important. Très important. C'est la première fois que ça arrive d'ailleurs. Parce que tous les gens qui ont été, même Indravadan par exemple, qui ont été projetés hors de leur corps violemment par un accident, au bout d'un certain temps, ils redeviennent conscients. Ça se rassemble. Indravadan, ça, c'était toute une autre histoire. Pas maintenant. Mais ça, c'est venu, son heure était venue parce que ça, je l'ai su au moment de l'accident, n'est-ce pas? J'ai su que c'était son heure, c'est-à-dire qu'il devait quitter son corps. Son heure était venue. Mais on a arrangé les circonstances. On a arrangé les circonstances pour que ça puisse apporter son maximum d'utilité. Ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Pratiquement, n'est-ce pas, il faut avoir beaucoup d'expérience pour apprendre. Mais pour avoir ces expériences, c'est-à-dire pour tirer profit de ces expériences, il faut déjà être de l'autre côté. Parce que j'ai appris beaucoup de choses jusqu'à ce moment-là mais je les apprenais. C'est-à-dire en étant de ce côté-ci de la barricade. Maintenant, je suis de l'autre côté de la barricade. Au moins en grande partie, pas totalement. Voilà. Tu avais quelque chose à me lire?
Ben oui. Il est trop tard.
Il est honteux. C'est long?
Bon, suffisamment.
J'ai 5 minutes.
Oh non, 5 minutes, c'est pas possible. Bon, il y a 4 et 2, 6.
Oh, la prochaine fois. La prochaine fois, il y aura beaucoup. Alors nous sommes mercredi, samedi. Mais si tu as quelque chose à me lire, tu me le diras.
Bon non, c'est du train où ça va.
On continue, non, on continue, c'est très bien. C'est très bien, continue.
Ben, ça va pas vite, hein.
Ça me fait mais vite, qu'est-ce que c'est que vite? Moi je trouve, tiens, depuis le 12 avril, je trouve que les hommes sont toujours pressés pour rien. Ça, c'est un sentiment que... Ils se dépêchent toujours comme s'il y avait... Ils devaient attraper un train. Mais pourquoi? Ça, c'est une des grosses erreurs. Grosses erreurs, pourquoi se dépêcher? Il y a une espèce de vibration intérieure, ça correspond à quelque chose qui fait comme ça, tout le temps qui gâte. Tout ce qu'ils font, ils le font vite, comme s'il y avait quelque chose qui les pousse. Ils mangent vite, ils se meuvent vite, ils font leur toilette vite, ils parlent vite. Mais pourquoi? Pourquoi être si pressé? Ça, c'est une expérience constante. Et je suis obligée de me retenir, je me dis, mais pourquoi vous pressez? Dès qu'on s'arrête de se presser, on commence à être dans une vibration plus vraie.